une voix téléphone, une chanson qui nous a ramené au cours des années 60, hein, 65. Et oui, c'était une très belle chanson, n'est-ce pas, auditeur de Radio Capi. On revient à nos moutons. Vous savez que tous les jours, nous vous proposons au moins des sujets qui vous informent dans la vie sociale, l'environnement, pourquoi pas. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons un peu quelque part du côté de Kinkole pour vous dire exactement ce qui a été fait. C'était le 24 juin dernier. Vous savez qu'on a eu à inaugurer une chambre froide pour les habitants de ce coin. On en parle aujourd'hui avec Fatima Poukou et nous vous rappelons que vous pouvez déjà intervenir avec vos questions, vos témoignages au 081 070 2050. Nous sommes là dans la ville de Kinshasa, puisque le 24 juin dernier, à l'occasion de la journée nationale du poisson, les différentes associations des paysans de la cité de Kinkole ont reçu des intrants de pêche. Le même jour, une chambre froide a été également inaugurée pour permettre aux pêcheurs de stocker des poissons. Dotée d'une capacité de 50 000 mètres cubes, cette chambre froide pourra recevoir 27 tonnes de poissons. Nous faisons justement le point avec Tati Mapoukou, puisque vous avez été sur les lieux. Alors, pour commencer, quelle est l'ambiance qui a régné le jour de l'inauguration de cette chambre froide?
Nicole, il faut dire qu'il y a une ambiance de fête parce que c'était à l'occasion de la fête nationale des poissons célébrée le 24 juin de chaque année. À Kinshasa, c'est à la cité de Kinkole que l'on célèbre cette fête parce que ce quartier est connu comme étant la cité des pêcheurs. C'est à cette occasion que Zana Mobutu a procédé à l'inauguration d'une chambre froide pour la conservation de poissons. Nous vous laissons suivre l'ambiance qui a caractérisé cette manifestation. Suivant.
Oui, là, c'était l'ambiance qui a régné le jour de l'inauguration. On sent que il y a beaucoup d'émotions hein, dans la voix des mamans. Mais les pêcheurs de Kinkole, est-ce qu'ils sont vraiment satisfaits de cette initiative, Tati?
Tout à fait, Nicole. Regroupés au sein des différentes associations, les pêcheurs des poules Malibu sont très satisfaits de l'acquisition de cette chambre froide. Elle a une capacité de 50 mètres cubes et elle peut contenir 27 tonnes de poissons. Au cours des inaugurations de la dite chambre froide, Zana Mobutu a invité les pêcheurs des poules Malibu de travailler en synergie avec les autorités citoyennes en vue d'évaluer à chaque étape les différentes stratégies adoptées par les ministères pour augmenter la production de la pêche au plan national. En outre, Zana Mobutu a remis aux pêcheurs de Kinshasa les outils de travail constitués des hors-bord, dont un moteur pour chaque association, des filets et autres intrants de pêche. Il sera mis en place dans les prochains jours d'une structure mixte constituée des pêcheurs et des agents du ministère pour la gestion de cette chambre froide. Écoutons le propos de Zana Mobutu. C'était pendant la cérémonie officielle devant la maison communale d'Enansele.
Bien, il faut prendre ensemble l'habitude d'évaluer nos actions, celles menées par le ministère en votre faveur et vos activités réelles de production de poissons. Cela nous permettra d'évaluer chaque fois le chemin parcouru afin d'envisager ensemble les actions à mener. C'est pourquoi les opérations de distribution des intrants de pêche, filets et autres matériels vont se poursuivre seulement après identification complète de l'ensemble des associations de pêche du poule Malibu. En attendant, une certaine quantité d'intrants de pêche sera distribuée à titre symbolique. Enfin, c'est ici le lieu de parler de la chambre froide qui vient d'être installée. Elle a une capacité de 50 mètres cubes et peut recevoir 27 tonnes de poissons. Pour une bonne gestion de ce matériel important pour la conservation du poisson, le ministère prévoit la mise en place d'un comité de gestion restreint comprenant des pêcheurs et des délégués des services du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural.
Voilà, donc là c'était Zana Mobutu, hein, qui est justement ministre d'État. Alors avant l'acquisition de la dite chambre froide, comment est-ce que les pêcheurs du poule Malibu se débrouillaient pour conserver leurs poissons?
En tout cas pendant la période des productions accrues, telle que maintenant, parce que nous sommes dans la saison sèche, c'est la période des grandes productions, les poissons pourrissaient par manque d'années de conservation. Mais il existe des méthodes traditionnelles de conservation de poissons. Il s'agit notamment de l'assaisonnement pour en faire les poissons salés et on peut également le braiser. Dans ces cas de figure, c'est plus du poisson frais, mais ce sont là d'autres modes de conservation de poissons. Par ailleurs, ils nous ont révélé que la plupart des intrants qu'ils perçoivent de la part du gouvernement sont généralement insuffisants par rapport au nombre de pêcheurs et ces outils ne sont pas toujours de bonne qualité, suivant le commentaire du président de l'association des pêcheurs de Kingaboi.
Et d'accord, je commence d'abord par les problèmes de la chambre froide. Ça, c'est une solution, un problème que nous avons toujours vécu, nous avons déploré les pertes de post-capture. Pendant les périodes de bonne production, c'est-à-dire haute production, parfois nous connaissons des pertes faute de moyens de conservation. Je crois que l'inauguration de cette chambre va apporter un tonus et va nous conforter davantage sur ce que nous sommes en train de faire. Et par rapport à la distribution des intrants, comme chaque année, le gouvernement s'évertue à nous donner des intrants, c'est vrai, peut-être sans nous consulter, mais de temps en temps, ces intrants quand même arrivent quand même à apporter une petite solution, en dépit du fait que les intrants sont parfois insuffisants en nombre, compte tenu du nombre de pêcheurs que nous encadrons dans nos organisations. Sur le plan qualitatif, ce sont la plupart des cas des intrants de mauvaise qualité.
Ah bon, ce sont des intrants de mauvaise qualité que le ministère leur remet ?
C'est comment c'est dire, Nicole ?
On aura justement des précisions avec notre invité, c'est Dr Luboyaka Songo Muteba, il est conseiller en charge de l'élevage au ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Vous souhaitez-vous aussi témoigner ? Pourquoi pas ? Faites-le au 081 070 20 50. Alors, est-ce qu'il existe un programme national de la pêche de notre pays ?
Selon toujours le président de l'Association des pêcheurs de Kingaboi, il n'y a pas un programme national de pêche. Il demande à ce que le gouvernement puisse adopter des mesures réglementant le secteur de la pêche, car c'est un secteur qui n'est pas assaini jusqu'à présent. Suivons-les encore une fois de plus.
Bon, je crois que ça, c'est un problème que nous avons toujours essayé de parler avec le gouvernement. Mais il faut d'abord que le gouvernement fasse les grandes orientations sur la pêche. Parce que dans les grands pays, c'est le gouvernement qui oriente. Et en orientant, donne des moyens. Et ces moyens-là, ce sont les pêcheurs qui vont utiliser, c'est-à-dire appliquer la politique du gouvernement qui sera mise en place. Et d'ailleurs, dans beaucoup de pays, c'est le gouvernement qui oriente. Et en orientant, on appuie avec les moyens et c'est conformément aux desiderata de pêcheurs. Et vous devez comprendre aussi que dans notre pays, il se pose aussi un problème de la réglementation de la pêche. Et ça, c'est quand il n'y a pas réglementation des pêches, ça, c'est un peu difficile. Parce que s'il y a réglementation, il y a régénérescence de potentiel halieutique. Et avec ça, lorsqu'il y a ouverture des pêches, en tout cas, on sera capable d'augmenter la production en un laps de temps, c'est vrai.
Ils sont bien s'y connaître, hein, le président de l'association des pêcheurs.
Bien sûr, c'est le président de l'association, et c'est pas pour rien qu'on l'a choisi.
Mais qu'en pense le conseiller, on va le savoir. Hein. Peut-être que lui aussi, il aura confirmé ce qu'il vient de nous dire. Nous vous rappelons que vous aussi, vous pouvez témoigner et même faire des propositions comme ce monsieur que vous venez d'écouter au 081-070-2050. Pour ceux qui nous suivent sur le net, écrivez-nous à action@radiocapi.net.
Vous souhaitez adresser une dédicace à une personne que vous aimez, envoyez-nous un mail à dédicace@radiookapi.net en nous expliquant la raison ou le motif, le titre musical que vous souhaitez écouter, ainsi que vos coordonnées téléphoniques. Votre chanson préférée passera peut-être le week-end sur les ondes de Radio Okapi.
Nous avons notre invité qui est avec nous dans ce studio, c'est Dr Luboya Kasongo. Vous êtes conseiller chargé de l'élevage au ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Vous êtes notre invité pour cette question qui concerne justement l'agriculture, mais particulièrement la pêche, hein, puisque dernièrement, vous avez eu à inaugurer une chambre froide. Vous avez suivi les réactions des habitants, vous avez suivi les réactions du président de l'Association des pêcheurs. Votre première réaction, c'est laquelle ?
Merci, madame. Mais ma première réaction est un peu de regret. Parce que j'ai l'impression que notre population, nos pêcheurs, ne comprennent pas exactement ce qu'on fait pour eux. Donc nous sommes encore dans un esprit de paternalisme. Les intrants sont donnés chaque année. Si vous avez suivi le discours de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, il a dit que cette année-ci, on ne va pas donner tous les intrants, on donne juste un peu, parce que nous voulons voir clair dans l'organisation des pêcheurs. Il est arrivé l'année passée, un exemple, on donne des intrants, eh bien, les gens disparaissent avec ça. Les gens viennent se présenter comme étant des représentants des pêcheurs. Eh bien, on prend des intrants, on leur donne pour aller donner aux pêcheurs. Le ministère ne peut pas aller remettre à chaque pêcheur individuellement. On leur a demandé de s'organiser. Mais on a constaté que les intrants ne sont pas réellement arrivés là où ils devraient être arrivés. C'est comme ça que cette année-ci, Son Excellence Monsieur le ministre d'État a pris la décision d'organiser cette distribution, de recenser les organisations pour distinguer les vraies organisations qui sont avec les pêcheurs et les autres, de manière que les intrants puissent commencer à arriver exactement auprès d'eux. Mais il y a aussi une chose que nous devons savoir. Si l'État vous donne quelque chose aujourd'hui, cela ne veut pas dire que vous devez continuer toujours à vous accrocher aux mamelles de l'État. Donc, on vous les donne pour que vous puissiez produire de manière que vous puissiez vous prendre en charge.
Oui, mais parlant des intrants, je vous coupe un peu la parole, docteur Le Bouillard, parce que tout à l'heure, on a suivi le président des pêcheurs qui nous a dit que les intrants qu'on leur donnait étaient de très mauvaise qualité.
Non, il faut, ça, ce sont des allégations. Il faut prouver ça, voir pourquoi ils ne sont jamais venus chez nous pour nous présenter ces intrants, nous dire...
Peut-être qu'ils l'ont fait, mais ils n'ont pas été
venus. Ils ne l'ont jamais fait. Moi, je suis conseiller chargé de l'élevage. Et j'ai un collègue qui est aussi conseiller chargé de la pêche. Ces genres de questions, on nous les soumet. Alors, on ne nous a jamais dit ça. Vous voyez? Bon, en ce qui concerne le problème du programme de pêche, on doit faire la distinction ici entre la loi sur la pêche et la réglementation de la pêche. La réglementation de la pêche est du ressort du ministère de l'Environnement. Et au ministère de l'Environnement, c'est prévu. Il y a des périodes d'ouverture de la pêche, il y a des périodes de fermeture pour permettre au stock de poissons de se reconstituer. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas entrer dans la cuisine interne des autres. On constate, et nous le voyons d'ailleurs dans la plupart des secteurs de la vie nationale, à cause de toute cette période de turbulence que nous avons connue, il y a beaucoup de réglementations qui ne sont pas appliquées. Mais ça, ce n'est pas de notre ressort d'aller réglementer les périodes de pêche. Ça, c'est le ministère
de l'Environnement.
Mais par contre, il y a une loi qui est en projet, qui est en train de se préparer maintenant sur la pêche, qui va organiser la pêche en République démocratique du Congo. Ça, c'est notre ressort. On est en train de le faire parce que jusque-là, dans notre pays, il n'y avait pas ce genre de loi. Mais cette loi est en train d'être faite. Et d'ailleurs, il y a même aussi le code global agricole dans lequel on prend tous ces aspects-là qui doit être voté bientôt au Parlement.
Mais on peut avoir une idée sur cette loi, sur la pêche, qui va être d'ici là confectionnée?
Non, elle est déjà confectionnée. Maintenant, il y a une procédure. Quand la loi est préparée, on ne l'amène pas directement au Parlement. Ça doit passer un conseil des ministres, on doit l'adopter, et après, le gouvernement l'envoie. Parce que le ministère de l'Agriculture ne travaille pas de façon isolée.
Mais qu'est-ce que vous avez prévu? Juste une idée, hein?
Mais on a prévu l'organisation de la pêche. Par exemple, le maillage. Donc, on ne peut pas pêcher les poissons avec n'importe quelle maille. Les petites mailles sont interdites, sont prohibées. Ça, on doit organiser. Alors, la loi prévoit notamment ces aspects techniques. Et ensuite, on ne peut pas pêcher avec du poison, comme on le faisait dans certains villages. On prend du poison, on met dans l'eau et puis on ramasse les poissons. Cela peut avoir un impact négatif sur la santé. Donc, il y a tout un tas de problèmes qui sont prévus par cette loi qui sera bientôt adoptée et publiée.
C'est bien beau, hein, tout ça, monsieur le conseiller. Mais bon, dans bien des cas, le constat fait est vraiment amer. Puisque les lois ne sont pas souvent appliquées, hein. Vous en êtes conscient. Alors, à votre niveau, est-ce que vous comptez assister réellement ces pêcheurs? Vous avez parlé des mailles tout à l'heure, la plupart des filets qui sont utilisés sont des filets avec des petits trous, hein, si je m'exprime bien. Mais ces pêcheurs, dans la plupart des cas, ils n'ont pas ces moyens-là, ils n'ont pas ces filets. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme filets dans la plupart des cas?
Madame, je vous remercie beaucoup pour... cette question-là. C'est comme je viens de vous le dire tantôt, lorsque nous donnons des filets, ces filets respectent le maillage. Mais, par contre, eux vont, parce qu'ils ont des moyens, ce sont des pêcheurs, ils produisent, et leurs produits, ils les vendent, ils ont de l'argent.
Vous dites qu'ils ont l'argent, mais nous savons qu'ils éprouvent d'énormes difficultés.
D'accord, mais ils vendent quand même le produit. Et avec leurs produits-là, ils achètent parfois aussi des filets. Mais, malheureusement, ils achètent des filets de petits maillages. La conséquence, c'est quoi? C'est que quand ils pêchent, ils vont pêcher même des poissons de toutes petites dimensions, des poissons qui sont encore très jeunes, et on empêche alors le stock de poissons de pouvoir se renouveler. Alors, la loi va mettre tout cela en ordre. Et en ce qui concerne les périodes de fermeture, d'ouverture de la pêche, comme le président l'avait dit, ça c'est la question du ministère de l'Environnement qui veille à ce genre de choses. C'est comme pour la réglementation sur la chasse. C'est le ministère de l'Environnement qui s'occupe de ce genre de questions.
Oui.
Nous voyons la production, c'est pas notre secteur.
Vous voyez la production, mais bon, aujourd'hui vous avez on sait qu'il y a une chambre froide qui a été inaugurée pour aider tant soit peu ces pêcheurs dans la conservation de leurs poissons. Mais que ça ne tienne. Est-ce que vous avez l'impression qu'une chambre froide, ça peut vraiment aider la production des poissons?
Mais ça c'est très important. Lorsque quelqu'un produit suffisamment de poissons, et s'il les amène au marché et que ces produits ne sont pas écoulés le même jour, mais il faut qu'on les conserve dans un certain état de fraîcheur pour garantir la qualité microbiologique et la qualité organoleptique, c'est-à-dire le goût de l'aliment.
C'était une priorité.
Mais c'est une grande priorité. Alors, le ministère
a... Est-ce que le besoin est exprimé par les pêcheurs?
Ça vient de pêcheurs, même quand l'autre dit que nous leur donnons des intrants sans les consulter. Mais ce sont eux qui avaient demandé la chambre froide l'année passée. Alors, le ministère a tout fait pour leur donner la chambre froide. Et on ne dit pas tout, parce que le ministère est allé plus loin par rapport à leurs besoins. Il leur a même donné des hors-bords, s'il vous plaît, pour leur permettre de faire un travail de qualité.
Vous dites des hors-bords, mais le nombre, peut-être c'est deux, hein?
Mais non, mais il y a 5 hors-bords. Là-bas, on a donné, juste à titre symbolique, quelques matériels. On a demandé à ce que nous puissions d'abord recenser et identifier les différentes organisations, et puis on leur donne le reste.
Est-ce que vous avez déjà eu des rencontres avec les pêcheurs, hein, raison pour laquelle vous avez répondu finalement à leur demande? On peut avoir une idée sur le nombre de pêcheurs qui sont recensés dans la ville de Kinshasa?
Bon, alors là, c'est un peu difficile à donner vraiment le chiffre exact, mais en tout cas, ils sont plus de 1000. Parce qu'il y a des poules de pêcheurs à Maluku, à Kinkole, à Mimosa, donc ils sont pratiquement partout. Mais en tout cas, vous pouvez être sûr, il y a plus de 1000 pêcheurs qui s'adonnent à cette activité-là.
Mais comment faites-vous aujourd'hui pour arriver à entretenir de bonnes relations avec eux, pour connaître leurs besoins? Est-ce que vous avez, pourquoi pas, ce que vous appelez un service d'échange avec ces pêcheurs?
Mais, voilà, heureusement que vous me posez cette question, parce que tout à l'heure on a dit qu'il n'y a pas un programme spécial de pêche, mais nous avons le SENADEP. C'est un service du ministère qui s'occupe de la pêche. Et au niveau, parce que nous avons aujourd'hui deux ministères qui ont été fusionnés, il y a l'agriculture, pêche et élevage, donc vous voyez que c'est déjà, la pêche est inclue dedans, et nous avons le développement rural. Nous avons un secrétariat général chargé de l'agriculture, pêche et élevage, et dans ce secrétariat général, nous avons toute une direction chargée de la pêche. Au niveau du développement communautaire, du côté du développement rural, il y a également un autre service qui est chargé des coopératives, d'organiser, d'encadrer le pêcheur. Donc, nous avons des structures qui encadrent le pêcheur. Je pense que Monsieur le Président n'est peut-être pas au courant.
Il n'est pas le seul. Hein.
Nous l'invitons à venir chez nous parce qu'il fait la pêche. Donc, il doit se connecter à nos services. Qu'il vienne chez nous, nous lui montrons les services où il peut aller poser ses problèmes afin de trouver des solutions.
Ça, c'est bien de les inviter parce que bon nombre aimerait être assisté et peut-être que ça permettrait d'améliorer la production de la pêche en RDC parce que on sait, hein, ce n'est pas une nouveauté. La RDC, c'est un pays qui est riche en poissons, mais curieusement, la population n'en profite pas. On importe aujourd'hui le poisson, communément appelé Mpuzi, hein, Thompson, qui vient d'ailleurs, alors que nous-mêmes, on peut produire ce poisson en grande quantité et même l'exporter.
Vous avez raison, madame, mais il y a une chose que la plupart des gens oublient. Nous sommes dans un pays qui vient de sortir de nombreuses années de conflits. Et à l'intérieur de ce pays, même les routes n'étaient plus là. Moi, j'ai circulé dans le cadre de mes fonctions de conseiller technique d'aide au ministère de la Défense. J'ai circulé à travers tous les pays. Il y avait des endroits où on ne pouvait même pas passer. Le fleuve, vous le savez, à un moment donné, on ne pouvait même pas circuler dessus. Donc, nous sommes ici en train de reconstruire. Et il ne faut pas oublier cet aspect-là. Mais pour le moment qu'on reconstruit, il y a des programmes qui sont mis en œuvre pour stimuler la production, pas seulement du poisson, mais la production des denrées alimentaires d'origine animale comme la viande, des denrées alimentaires d'origine végétale comme le riz, le maïs, etc. Et vous savez que dernièrement, son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, a été à Bumba. Pourquoi il a été là? C'est pour visiter les sites de haute production de riz. Et on a constaté qu'il y a beaucoup de riz à ce niveau-là. Mais le gros problème que nous avons, c'est le problème d'évacuation du produit. Et c'est la raison pour laquelle, moi j'ai dit aux gens qui parlent de la crise alimentaire, qu'ils sont en train d'intoxiquer, de transposer une donnée extérieure. Parce qu'aujourd'hui, madame, est-ce que vous croyez que la situation de l'Éthiopie aujourd'hui, en ce qui concerne le problème alimentaire, c'est la même situation avec le Congo? Non. Là-bas, c'est un pays semi-désertique, tout comme les autres pays du Sahara. Ce sont des pays désertiques qui n'ont pas de moyens. Et aujourd'hui, quand vous allez en Éthiopie, il y a des problèmes. Mais ici, chez nous, je peux vous affirmer qu'il n'y aura pas de crise alimentaire. Pourquoi? Parce que le ministère est en train de tout faire pour pouvoir assurer l'évacuation des produits.
L'évacuation des produits, le ministère, vous avez dit qu'il y a un problème de route. Est-ce que le ministère va construire ces routes? Est-ce que le ministère fera en sorte qu'il y ait des avions qui puissent voler
Si, mais dans le programme du gouvernement, il y a un programme de réhabilitation des voies de dessert agricoles. Et aujourd'hui, il n'y a pas que les routes, il y a aussi les réseaux fluviales. Il y a des bateaux qui vont régulièrement, par exemple pour Bumba et pour Mandaka. Mandaka produit aussi énormément de poissons que nous consommons ici. Mais le réseau fluvial est là, il y a des bateaux.
Ils trouvent des poissons, mais oui, les poissons sont difficilement évacués de Mandaka.
Mais il y a de toute façon, pour le moment, on les voit venir.
Oui, on les voit venir, mais c'est à quel prix? Non, mais c'est quand entendons-nous. Aujourd'hui, la plupart des gens préfèrent acheter le poisson importé qui coûte moins cher que le poisson qui est produit sur place. Ce n'est pas normal. Normalement, le poisson importé devrait coûter plus cher. Mais curieusement, c'est le poisson produit localement qui coûte plus cher.
Mais c'est pourquoi je vous ai dit que le problème que nous avons, c'est un problème d'évacuation. Il y a une série de programmes, il y a des travaux qui sont en train d'être faits là-bas pour pouvoir assurer l'évacuation de tous ces produits vers les grands centres de consommation. Parce que tout commence toujours quelque part. Je vous ai dit, nous sommes dans un pays post-conflit où tout était complètement bloqué. Nous sommes en train de reprendre. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut me dire que la situation d'aujourd'hui, c'est la situation de 2003. En 2003, on ne pouvait même pas quitter ici, arriver, je ne sais pas, au Kasaï, arriver à Mandaka. C'est impossible. Mais les choses sont en train d'être mises en route. Les stratégies ont été élaborées et commencent à être appliquées aujourd'hui. Alors, moi, je vous assure que dans le mois qui suivent, un ou deux mois ici, le problème sera complètement résolu. Parce que j'ai confiance dans notre pays et dans nos potentialités.
Vous voulez dire que parmi les stratégies mises en place par le ministère, il y a notamment la réhabilitation des routes de
dessert agricole? Absolument, parce que nous avons aussi le secteur du développement rural. Le développement rural est basé aussi sur la réhabilitation de voies de dessert agricole. Parce que vous ne pouvez pas assurer aux populations rurales une meilleure vie, des bonnes conditions de vie, s'ils ne sont pas capables d'évacuer leurs produits.
Il n'y a pas que les routes, il y a aussi la voie ferrée.
Absolument.
Le ministère va réhabiliter la voie ferrée?
Nous avons... Bon, je voudrais d'abord vous signaler une chose. Très souvent, c'est peut-être une question de l'éducation que nous avons reçue des colonialistes, nous aimons traiter les problèmes de manière tout à fait sectorielle. Quand on voit l'agriculture, on dit, bon, ça c'est l'agriculture, ça c'est les fonds. Mais le problème de la sécurité alimentaire, c'est un problème global qui intéresse tous les ministères. Nous, nous nous occupons de la production agricole, nous nous occupons de la production de la pêche, de la viande, etc. Mais il y a le ministère des Transports qui est là pour justement gérer ces questions des transports. Et au niveau des stratégies qui ont été mises en œuvre, il y a un comité de pilotage interministériel où vous avez tous ces ministères qui sont impliqués dans les processus de la sécurité alimentaire. Vous avez le ministère du Plan, des Finances, les
Transports. C'est vrai que c'est pas un travail que vous allez normalement faire seul. Il y a d'autres qui devraient vous soutenir dans vos actions, raison pour laquelle vous êtes complémentaire dans ce que
Absolument.
Vous êtes en train de faire.
Absolument.
Mais curieusement, hein, c'est le constat fait par la population, c'est que jusqu'à ce jour, la population ne voit pas réellement les actions du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural.
Alors, je suis très étonné, madame, parce que tout à l'heure, vous me parlez de la chambre froide.
C'est la
présidente d'action.
Oui,
je donne un exemple.
Mais ça, c'est une goutte d'eau, il faut le reconnaître.
Non, ça fait partie d'une stratégie globale. Je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas voir les problèmes de manière sectorielle. La chambre froide qui vient d'être installée, mais il n'y a pas que cette chambre froide. Je reconnais qu'une seule chambre froide, ce n'est pas suffisant. Mais nous avons, au niveau du ministère, il y a un programme global de réhabilitation du secteur de la pêche. Mais il y a ici aussi, ce que vous devez savoir, un problème de moyens. Chaque fois qu'il y a le moyen qui tombe, eh bien, on fait une
action. Vous voulez dire que le ministère manque de moyens?
Je ne dis pas que le ministère manque de moyens, parce que le moyen que le ministère utilise, c'est le budget national. Le ministère ne génère pas de ressources, c'est le budget national. Alors, dès qu'il y a des ressources qui viennent, eh bien, on mène des actions. Alors, en ce qui concerne, en ce qui concerne la question spécifique de la sécurité alimentaire, il y a des moyens qui sont disponibilisés par le gouvernement pour pouvoir résoudre cette question-là.
Et pourtant, ça c'est une information qui nous a été communiquée et qui a été médiatisée. Nous avons appris que la FAO avait alloué des fonds pour le ministère. Le ministre même allait en Italie.
Oui, vous savez, ça c'est vrai ce que vous dites. Il y a eu 6 milliards qui avaient été alloués, non pas seulement à la seule République démocratique du Congo, mais pour le pays de l'Afrique centrale, mais dans lequel la République démocratique du Congo a un grand morceau. Pourquoi ? Parce que pour la communauté internationale, on sait que la République démocratique du Congo a une grande potentialité et que si on stimule le développement de l'agriculture, de la pêche, de la production de la viande ici dans notre pays, l'excédent peut être exporté vers le pays frontalier et vers les autres pays de l'Afrique. Parce qu'il y a des pays qui sont mal lotis. Je voudrais parler des pays du Sahel. Mais alors, ces produits que nous allons produire ici, grâce non seulement aux fonds versés par le gouvernement, mais aussi ces fonds versés par la communauté internationale.
Estimé à combien ?
Le fonds qui est versé pour l'ensemble de la sous-région, c'est 6 milliards de dollars. Donc c'est quand même des fonds assez respectables. Mais nous savons, avec tout ce qui est programmé, avec le travail qui est en train de se faire aujourd'hui, la République démocratique du Congo sera en mesure de pouvoir nourrir le pays de l'Afrique centrale.
C'est une garantie. Oui, c'est pas une promesse en l'air.
Non, mais c'est une réalité, puisque je vous ai dit que pour la production, il faut des moyens. Mais les moyens sont là. Ils ont été donnés par le gouvernement. Ils ont été donnés par la communauté internationale. Alors, donc, maintenant, c'est le travail, programme, tout est là. Mm-hmm. Nous travaillons.
La prochaine action pour terminer, monsieur le conseiller, docteur Louboya, après la chambre froide qui a été inaugurée, qu'est-ce que le ministère entend faire?
En tout cas, madame, beaucoup de choses. C'est tout un programme, un grand programme. Je ne peux pas isoler une action bien définie.
Mais
nous vous garantissons que prochainement, peut-être dans un mois, nous allons nous retrouver ici et nous ferons avec vous un bilan très bon et très satisfaisant pour l'ensemble de la population.
Affaire à suivre, docteur Louboya.
Merci, madame.
Moutébam. Nous rappelons que vous êtes conseiller chargé de l'élevage au ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Merci d'avoir répondu à nos questions et à la prochaine.
Merci, madame. Merci beaucoup.